Bonjour, je suis Martin Hainaut, je suis président spécial d'administration de Revive et entrepreneur et je suis heureux d'être l'invité de Hiring Stories aujourd'hui.
Bonjour Martin.
Ça va bien?
Ça va bien et toi?
Oui, tout à fait.
Bonjour.
Bonjour Geneviève.
On est super contente de te recevoir, Martin. Le sujet dont on va discuter nous tient particulièrement à cœur. J'aimerais ça, si tu peux juste donner aux gens qui nous écoutent un aperçu de qui est Martin Hainaut et de ce dont il vient nous parler aujourd'hui.
Avec plaisir. Je suis un entrepreneur et dirigeant d'entreprise depuis près de 20 ans maintenant, qui a commencé sa carrière en informatique puis qui a migré rapidement dans le milieu événementiel et toujours en gardant un vecteur technologique. J'ai eu la chance de collaborer avec certains des plus grands artistes et festivals au monde, entre autres la compagnie Intellitex que j'ai cofondée en 2009, travailler sur les festivals Coachella, Bonnaroo, Tomorrowland, Lollapalooza et plusieurs autres à travers le monde. J'ai également été producteur exécutif et CEO de C2 Montréal et C2 International. J'ai eu la chance de collaborer avec certaines des grandes entreprises à l'international à travers ça, puis aider les gens à trouver comment être plus créatifs dans le milieu des affaires. Mais surtout, comme personne, je suis anxieux, dépressif et bipolaire et je suis impliqué depuis maintenant près de 12 ans avec la cause de la santé mentale et je suis président du conseil d'administration de l'organisme Revive et je suis aussi vice-président du conseil d'administration de Québec Innov.
Ça, c'est quand même tout un parcours. C'est impressionnant, Martin. Ça m'impressionne. Tu me l'as déjà dit, mais on dirait qu'à chaque fois que je le réentends, je suis toujours impressionnée. Pour donner un aperçu aux gens qui nous écoutent, on a, avant l'épisode, on a laissé une tribune aux gens pour parler justement de leurs enjeux de santé mentale en entreprise. Donc, on a demandé aux professionnels RH ou aux gens en recrutement de nous partager des questions qui sont adressées à toi, Martin, sur le thème de la santé mentale en entreprise. C'est des questions qu'on va partager, puis auxquelles on aimerait que tu nous donnes des pistes de solutions ou simplement d'ouvrir un débat.
C'est des questions qui sont plus génériques, évidemment, parce qu'on va aborder la question un peu en surface. Mais moi, ce qui me préoccupe, puis on en discutait un tout petit peu avant d'enregistrer, c'est la situation actuelle, parce que le contexte était déjà pas simple avant, je pense, pour certaines personnes. Puis pour certains RH aussi, d'essayer de gérer ça et propriétaire d'entreprise. Mais je pense qu'en ce moment, c'est amplifié. Je vais souvent ramener ça à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle piste de solution on a maintenant?
Alors, la première question qu'on avait, c'était, est-ce qu'il y a des signes qu'on pourrait déceler qui indiqueraient un besoin de soutien chez un employé? Est-ce que tu peux nous aider là-dessus, Martin?
Je pense que avant de penser aux signes des employés, il faut considérer qui on est comme employeur et quel environnement on crée pour les employés. Parce que de pouvoir déceler les signes avant-coureurs d'un employé qui a des problématiques de santé mentale, c'est aussi d'être capable de se questionner sur le contexte que l'entreprise leur fournit et comment que l'entreprise permet à l'employé de tout faire. Pour moi, la première étape, c'est de créer un contexte dans lequel je veux pas dire que les gens pensent que l'entreprise devient de la thérapie ouverte, parce que ça, c'est dangereux et problématique. Mais bien que quand un employé ne va pas bien, qu'il sente la capacité de le dire sans nécessairement que tout le monde devienne des thérapeutes pour eux. C'est-à-dire que juste de dire, aujourd'hui, je vais moins bien, ou un employé dit à son manager, écoute, j'ai besoin de prendre l'après-midi off, il y a une situation difficile, mais que l'espace soit donné à la personne pour le faire. Puis quand on regarde nos politiques RH dans l'entreprise, des choses de base comme si quelqu'un perd un proche, mère, frère, enfant, on donne 2 jours off. Mais sérieusement, comment on veut que 2 jours off, la personne revienne dans l'entreprise et être dans un bon état? Souvent, c'est les politiques elles-mêmes qui empêchent les personnes d'aller mieux puis de pouvoir s'ouvrir. Donc, quand on crée le bon contexte pour que les employés soient bien capables d'être ouverts, mais c'est là que les employés eux-mêmes vont commencer à s'ouvrir sur les problématiques sans qu'on aille à tirer constamment pour avoir l'information.
Et justement, tu parlais des politiques, mais... Il y a beaucoup de réflexes de politique, de structurer, de répondre au tout vs à l'individu. Je pense aussi que souvent, il n'y a pas une politique commune pour tous. Chaque situation, chaque personne a un besoin différent d'écoute et d'adaptation de politique, right?
Définitivement. Puis quand on regarde qu'est-ce qui se passe avec la COVID aujourd'hui, personne n'aurait pu penser qu'une entreprise peut être 100% fonctionnelle à distance. Je ne dis pas que ça peut toujours l'être, puis il y a certains contextes qui ne le sont pas, mais la réalité qu'on force les gens d'arriver à 8h, 9h le matin, puis d'être là à cette heure-là, puis clocker out à 5h, puis prendre leur pause de café, leur pause de lunch, ça vient de l'ère industrielle, c'est dépassé, ça n'a plus aucun contexte. Si quelqu'un a des jeunes enfants, la réalité, c'est qu'ils vont stresser pour aller chercher la garderie pour leur faire à manger. C'est que si on leur demande de travailler jusqu'à 5h, mais on les les met dans une situation stressante. J'ai des employés dans le passé qui m'ont dit pourquoi que je peux pas arrêter à 3 heures puis recommencer à 8 heures puis finir à 10 heures. Personnellement, ça me causait pas problème. Puis pour eux, ça leur ouvrait un nouveau monde de possibilités qu'ils pouvaient passer du temps avec leur famille, s'en occuper. Puis quand ils mettaient les enfants au lit, mais là, ils se remettaient à finir leur journée puis étaient encore plus productifs. Donc, effectivement, c'est important. Puis je pense que le contexte de la crise actuelle ouvre la porte sur se questionner sur tellement de choses du genre qu'on prenait pour acquis, toutes des mauvaises idées qui viennent du passé dans bien des cas, ou des anciennes bonnes idées, mais qui sont plus valides aujourd'hui. Puis, on devrait se servir de la COVID pour aussi se questionner sur comment qu'on crée un contexte plus humain pour les gens à se développer.
Et si je veux juste intervenir pour dire que Martin ne connaît pas vraiment Flo, en fait, on s'en est pas tellement parlé, donc j'ai l'air de t'avoir, tu verras une fois que tu vas avoir lu un petit peu sur mon entreprise, mais j'ai l'air de t'avoir payé pour que tu dises tout ça en ce moment, c'est pas du tout le cas. Mais je pouvais pas m'empêcher de faire un lien avec la flexibilité, justement, en fait, même si c'est pas l'objectif du podcast, là, de cet épisode-là, mais la flexibilité, c'est dans tout. Hein. On commence avec les politiques de travail, parce que je pense que ça prend quand même certaines balises dans nos entreprises, mais après, plus on est flexible, plus normalement on fait confiance aux employés, puis plus il y a ce climat de confiance-là, ben je pense que c'est rassurant aussi, ça devient plus sécuritaire pour les employés d'une certaine façon. Cela dit, j'arrête de prêcher pour ma paroisse, mais c'est quand même un peu ça. J'aimerais faire le lien peut-être avec la deuxième question. C'est une question sous deux angles, en fait, la question étant celle-ci. Comment bien réintégrer un ou une employée qui revient d'un congé d'épuisement, maladie ou de maternité, en fait? La question en général, puis dans le contexte actuel.
Mais, premièrement, c'est qu'il faut pas regarder un congé d'un employé comme étant on le réintègre à son retour, mais bien on l'accompagne dès le moment qu'il tombe en congé. C'est un changement de perspective qui fait en sorte que l'employé ne se sent pas abandonné. J'ai entendu tellement d'histoires d'horreur que les employeurs, quand ils apprennent, ils réagissent « Oh my God, on va appeler la on va le changer ». Quelqu'un qui dit « Je suis en burn-out depuis 3 mois, j'arrive pas à me lever le matin », puis l'employeur dit « Ben, notre médecin dit que tu es prêt à aller au travail 3 jours/semaine à partir de la semaine prochaine », la personne se fait obliger, l'employeur dit « Ok, je vais t'accompagner à ton retour », mais il est trop tard à ce moment-là pour aider la personne. Et bien souvent, si la personne est préférée, par exemple, dans le cas d'un burn-out, avoir un psychologue, si c'est pas au privé, ça va au public, sincèrement, en 3 mois, il voit pas de psychologue. Donc, de penser que la personne va aller mieux dès le retour sans avoir de communication avec elle ou avec lui, c'est pas logique. Donc, premièrement, c'est d'établir une relation de confiance avec la personne qui quitte, et une fois par semaine, une fois par 2 semaines, juste savoir comment ça va, y a-t-il quelque chose qu'on peut t'aider avec, comment tu te sens par rapport à qu'est-ce que l'assureur dit, comment tu sens le processus, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut faire. Puis quand la personne revient, mais c'est d'avoir des discussions avec ses collègues, dire écoutez, la personne est pas faible parce qu'elle est quittée, elle a eu quelque chose qui est arrivé, c'est important de l'aider à revenir, puis on veut justement l'aider à ne pas retomber. Donc, créons un climat dans lequel la personne se sent bien, parce que ça va juste être plus de là pour tout le monde si la personne retourne par la suite. Dans le contexte actuel, c'est sûr que ça change les choses un peu, parce que on n'a pas nécessairement de bureau dans lequel la personne va revenir, et c'est encore plus important d'avoir des touchpoints quotidiens avec les gens qui reviennent, à comprendre comment ils se sentent là-dedans, dans cette nouvelle réalité-là. C'est peut-être d'ajuster en temps réel. Puis pour moi, c'est pas parce qu'un médecin dit « t'es prête à revenir 3 jours/semaine » que la personne est prête à revenir 3 jours/semaine. Si la personne dit « j'aimerais mieux commencer à 2 jours », puis surtout dans le contexte actuel, j'ai mes enfants à la maison, à l'école, etc., je vous conseille fortement d'écouter la personne puis de trouver un arrangement qui fait du sens avec elle. Puis encore une fois, peut-être de revoir les horaires de travail ou peut-être de trouver un scénario alternatif. La réalité, c'est qu'on vit tous situations complètement réelles et normal actuellement, donc faut y aller progressivement dans n'importe quelle politique qu'on met en place.
Il y a aussi l'entourage, les collègues, right, à peut-être, est-ce que je pourrais dire sensibiliser ou éduquer pour justement faire en sorte que ces fameux 2 jours de réintégration dans son poste soient un succès finalement et pas juste un nouveau piège pour cette personne-là?
Définitivement, je crois que le fait est qu'on n'a pas eu personne de l'éducation à l'école sur la santé mentale, que ça soit au Québec, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Europe, il n'y a pas vraiment de juridiction en ce moment. Il y en a quelques-unes, mais c'est très rare, qui vont vraiment avoir un programme d'éducation chez les jeunes, de dire c'est quoi la dépression, c'est quoi l'anxiété, c'est quoi la bipolarité, c'est quoi le burn-out et tout. Donc, Premièrement, c'est d'éduquer les employés d'une entreprise sur la réalité de la santé mentale. Le CAMH, le Canadian Addiction Mental Health Center en Ontario, dit qu'un Canadien sur deux avant l'âge de 40 ans va faire face à la maladie mentale. C'est pas quelque chose qui est rare, c'est pas quelque chose qui arrive seulement aux autres. La majorité des gens dans leur famille ou dans leur réseau proche ont quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont des problématiques de maladie ou de santé mentale. Donc, c'est important d'éduquer les employés sur cette réalité-là, les éduquer sur eux-mêmes, comment ils peuvent mieux aller et mieux gérer. Puis c'est pour ça qu'à Revive, on a développé des programmes d'éducation pour les employeurs et les employés, justement, pour les aider à les accompagner à comprendre c'est quoi la réalité de la santé mentale, parce que la personne qui revient est généralement celle qui a du support justement pour revenir. Les autres n'ont pas nécessairement du support pour l'accompagner, puis n'ont pas de support pour leurs propres problématiques. Puis j'ai vu souvent des gens qui se sentent insultés parce que eux n'ont pas la capacité de prendre un congé de maladie, mais ils en auraient besoin. C'est qu'ils font payer la personne qui n'a eu un à son retour. Quand on est capable de justement bien éduquer les employés, on évite ce genre de situation-là, puis on aide la personne qui revient par ricochet.
Je pense qu'il y a aussi beaucoup encore de craintes. Tantôt, tu parlais du RH ou de la RH qui peut établir un contact avec la personne. Je pense que parce qu'il y a des tabous, en fait, ou que justement, c'est pas encore tout à fait... On en parle de plus en plus, là, mais c'est pas encore... On est, comme tu dis, on n'est pas très éduqués sur la question. Fait que je pense que santé mentale, déjà, c'est un terme qui peut aussi faire peur un peu. Là. J'entends beaucoup santé globale. Je sais pas si ça peut... En même temps, il faut le regarder aussi, là, tu sais, il faut le regarder puis s'éduquer là-dessus, puis plus on va en connaître là-dessus, moins on va avoir de craintes. Mais je pense que des fois, il y a des petites craintes de dire, ah, je sais pas comment gérer ça, je suis pas psychologue, fait que, tu sais, j'ose pas trop, alors la personne n'est pas dangereuse soudainement, là, tu sais, c'est juste qu'elle vit quelque chose de différent. Puis c'est en communiquant, tu sais, puis en parlant que, même si c'est pas avec les bons mots, des fois, c'est pas grave, en fait, je pense que la personne préfère avoir du support que pas du tout par crainte des gens.
Pour compléter ce que tu dis, Jen, puis ça va te permettre, Martin, de répondre en partie à une autre question qui disait, ben, comment faire pour engager une conversation authentique avec ces gens-là, avec quelqu'un, un employé chez qui on décèle, qui a un besoin, ou juste d'aller au-delà du comment ça va, mais sans non plus rentrer dans le côté vie privée de cette personne-là.
Premièrement, c'est pas aux ressources humaines de gérer les employés à 100%, c'est au manager de l'entreprise de le faire en collaboration avec les ressources humaines. Puis c'est de quoi qui se perd souvent dans les entreprises, quand il y a une problématique, les dirigeants ou les directeurs vont dire « Ah, ben, t'as une problématique, va-t'en au HR, aux ressources humaines, ils vont s'occuper de toi. » Et c'est quand on se dédouane complètement de qu'est-ce qui se passe. Je crois pas que c'est la bonne approche de nos jours. Je pense que faut que l'entreprise au complet ait une approche active à bien gérer les employés. Puis, c'est aussi là que quand un dirigeant sait qu'il n'est pas bon à écouter, qu'il sait que s'il y a la mauvaise réponse, quand il dit ça va bien, il peut carrément le dire à ses employés, de dire, je sais que moi, l'empathie, ça n'existe pas chez moi. C'est que dans ce cas-là, ben, on s'est dit comme entreprise, parler à Julie, parler à Patrice, parler à whoever dans l'entreprise, qui va être capable de me traduire ce que vous avez besoin, parce que je le sais que je suis pas capable de le faire. Puis c'est là que, quand on pose la question, comment ça va, qu'on commence à avoir des réponses meilleur. Puis quand on sent que quelqu'un va pas bien, on peut carrément dire comment que ça va vraiment, pour juste briser le pattern du juste comment ça va, qui fait en sorte qu'on a des réponses préétablies. Puis si on sait que comme manager, on est horrible à avoir les réponses honnêtes du comment ça va, mais demander à quelqu'un d'autre de poser la question qui peut aider la personne à aller mieux dans ce cas-là, c'est comme ça devient plus un tabou caché dans lequel on n'ose pas poser. Puis si la personne dit j'ai rien à dire, mais c'est pas continuellement poser la question. Si ses performances de travail sur une longue période commencent à dégrader, ben là, oui, asseyez-vous avec et dire, écoutez, tes performances vont pas bien, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui se passe, ça allait bien avant, puis je sais que tu veux pas en parler, mais là, ça arrive à un point que je pense qu'il faut qu'on l'adresse dû à tes performances au travail, puis on veut t'accompagner là-dedans, on veut pas te nuire, mais d'avoir un dialogue ouvert, constructif et productif avec la personne.
Comment tu fais quand, par exemple, tu as constaté qu'il y avait de la détresse auprès de cette personne-là avec qui tu parles, que tu lui as signifié, que tu savais que ça n'allait pas, tu l'as compris, puis la personne est plus ou moins consciente qu'elle ne va pas bien, mais elle est en déni de son état de détresse mentale. Comment tu fais pour... je pense que c'est une trop grosse mission de faire réaliser à cette personne-là, là, mais y a-tu des choses, des outils, des manières de faire, tu sais, parce que je sais qu'en tant qu'il y a beaucoup d'employeurs qui disent, mais tu sais, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Je pense que tu es rendu au point où il faut que tu le fasses, mais la personne ne le fait pas.
Je crois pas que l'employeur a un rôle de thérapeute, premièrement. Donc, c'est pas nécessairement à l'employeur de faire réaliser ça à la personne. Sauf que quand les dirigeants s'ouvrent eux-mêmes sur leurs problématiques, tu sais, quand je parle ouvertement du fait que j'ai fait encore des crises de panique, j'ai encore des idées suicidaires parfois qui arrivent, je vois pas ça comme étant problématique ou négatif parce que j'en parle avec mon entourage, j'en parle avec mon psychiatre. Pour moi, les pensées suicidaires, c'est pas de quoi qui va l'idée vers une action suicidaire. C'est un flag qui m'amène à pouvoir demander de l'aide. Puis j'ai pas honte d'en parler aujourd'hui ou d'en parler avec mon entourage parce que ça fait partie de moi. Donc, quand un dirigeant ou que l'entreprise en tant que telle est capable de parler de leur réalité, est capable de parler de qu'est-ce qui ne va pas, bien, ça l'aide les gens à voir puis à se questionner eux-mêmes sur « mais moi, si ça va pas, peut-être que je pourrais faire ça également. » Je dis tout le temps que je suis des thérapies, que je vois un psychologue, un psychiatre, pas pour inciter les gens à dire « allez-y, allez-y », mais qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de tabou au fait d'y aller s'ils en ont besoin.
Pendant qu'on est sur le sujet, justement, le sujet du suicide, tu as parlé de suicide et de pensée suicidaire et autres, je fais juste un petit aparté parce que, justement, on est un peu isolé en ce moment, tout le monde, autant d'entreprises que dans nos vies personnelles, etc. On se retrouve vraiment dans notre bulle à la maison. Puis cette maison-là, ben avant la pandémie, était bien, on était très bien positionné ou pas, hein, puis ça arrivait. Puis il y a des gens qui avaient des problèmes avant la pandémie, puis là, je pense que ça a juste des situations familiales difficiles, de la solitude, tu sais, tout un ou tout l'autre, finalement. Qu'est-ce que tu donnerais comme outil, si je regarde Revivre, en fait, cet organisme-là? Est-ce que ça fait partie des ressources que tu suggérerais aux gens pour qu'ils puissent y avoir accès rapidement et facilement?
Définitivement, Revivre, une équipe d'intervention temps plein, généralement, si vous les contactez en dedans de quelques jours, vous allez être capable de voir, mais en fait, parler virtuellement à quelqu'un dans le contexte actuel. C'est des services gratuits, donc on aide les gens qui en ont besoin, puis on les aide à se diriger vers les bonnes ressources. On a également des ateliers d'autogestion, un sur la dépression, un sur l'anxiété, un sur le milieu du travail, un sur l'estime de soi, puis un sur la bipolarité, qui sont des programmes de formation de 10 semaines qui sont payants, mais qui sont des programmes qui ont nécessité 14 000 heures de travail à créer, puis qui sont vraiment là pour éduquer les gens sur comment s'outiller pour aller mieux, puis comprendre une réalité que moi-même, j'ai pris longtemps à comprendre, c'est qu'en santé mentale, c'est pas le médecin, le psychologue, le psychiatre, ma famille ou mes amis qui font en sorte que je vais mieux, c'est moi-même qui fait en sorte que je vais mieux, et que c'est moi-même qui dois m'outiller pour aller mieux. Ça veut pas dire que je dois apprendre tout sur Internet par moi-même, je dois m'entourer des bonnes personnes, mais je sais que c'est ma responsabilité de m'entourer des bonnes personnes, et c'est ma responsabilité de prendre des outils. Donc, ce programme-là est dédié vraiment à amener ce genre de réalisation-là avec des outils concrets pour le faire. Puis, on offre des services aux entreprises. Cela dit, c'est pas non plus juste Revivre. Il y a des centres anti-suicide, il y a des centres d'aide pour les jeunes, il y a Jeunesse l'écoute, il y a Tel Jeune, les fondations Jeunes en tête. Il y a beaucoup de ressources communautaires. Je déteste le mot communautaire parce que, sincèrement, c'est pas des services alternatifs. Comme dire Revivre, pour dépenser plus d'un million et 14 000 heures de travail pour monter un programme. Le programme est donné dans des hôpitaux, dans des CIUS et dans CLSC. C'est la même chose pour beaucoup d'organismes communautaires du Québec qui ont fait de la recherche, qui ont vraiment des outils validés et concrets. Puis c'est important de le faire, mais le plus important, c'est d'être capable de s'ouvrir à son entourage, d'être capable de se retrouver à quelqu'un. Puis quand on se sent isolé ou seul, de savoir qu'on a quelqu'un qui peut être là pour nous. Et si on a l'impression que personne est là pour vous, appelez Revivre, appelez moi, appelez qui que ce soit, mais demandez de l'aide, puis je peux vous garantir qu'il y a de l'aide quand on en demande.
Peut-être une solution simple aussi, c'est de rappeler ces choses-là. Tu sais, je pense à quelqu'un en RH ou en manager, de régulièrement faire des communications sur ces ressources-là qui sont disponibles, peut-être un peu plus en ce moment à cause du contexte actuel qu'on vit tous, ne serait-ce que dans la newsletter d'entreprise, ça se fait beaucoup les newsletters, mais d'avoir une catégorie justement si vous avez besoin d'aide et de mettre les ressources, juste des petites choses comme ça, je pense que ça fait pas de mal, puis ça peut donner un levier à quelqu'un qui en a besoin à un moment X. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à risque de tomber en épuisement professionnel? Par exemple, la personne disait peut-être des gens qui sont TDA ou TDAH ou des gens hypersensibles ou des gens qui ont déjà vécu un épuisement. Est-ce que tu remarques un pattern dans ça?
la recherche démontre que quelqu'un qui tombe en burn-out une fois a beaucoup plus de chances de tomber en burn-out plusieurs autres fois, puis de plus en plus longue durée. En chiffres concrets, puis c'est pour ça que souvent je trouve que c'est très rentable d'investir en santé mentale pour une entreprise, à travers une étude de Deloitte qui a été faite l'année dernière qui disait que justement, même si la santé mentale représente 30 à 40 % des demandes au programme d'assurance longue durée, ça peut représenter entre 70 et 80 % des dépenses de ce programme-là. Parce que justement, si quelqu'un se brise un bras ou même un cancer, dans bien des cas, on a une durée relative connu des traitements qui vont avoir lieu. Dans le cas d'un burn-out, un professionnel ou autre, on n'a pas nécessairement cette connaissance-là. Donc, c'est de là que d'offrir des meilleurs outils aux employés devient rentable assez rapidement. Puis, dans le contexte actuel, la réalité, c'est qu'on doit être encore plus à l'écoute de nos employés puis de leur demander concrètement comment ça va pour être capable d'amener plus d'ouverture et plus d'outils à ces gens-là. Pour revenir également aux problématiques qui sont préexistantes, c'est sûr que je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je peux pas dire que telle condition amène telle chose, mais c'est sûr que quand on a des problématiques déjà existantes de maladie mentale ou santé mentale, on a possiblement plus de chances de tomber dans un contexte. Et moi, je sais que je suis dyslexique. C'est une des raisons qui m'a amené à être entrepreneur, en fait, cette dyslexie-là qui faisait en sorte que l'école ne fonctionnait pas pour moi très bien. Et c'est sûr que le fait que je suis dyslexique, le fait que je suis entrepreneur, le fait que j'ai une personnalité drivée va faire en sorte que je risque de tomber en burn-out à un moment donné où j'ai tombé en burn-out dans le passé parce que j'avais pas appris à me contrôler là-dedans. Maintenant, je l'ai appris. Je pense pas, j'espère pas retomber en burn-out un jour, mais je suis jamais non plus à l'abri comme tout le monde de l'aide. Mais je pense que la première question à se poser pour savoir si quelqu'un est plus à risque de tomber en burn-out, c'est de se poser une question honnête sur la réalité de la personne. Si la personne est une mère ou un père monoparental à la maison, avec les enfants à la maison à cause de la COVID, avec une job qui nécessite qu'ils travaillent toute la journée de 9 à 5 en remote, en même temps d'éduquer leurs enfants, en même temps que tout le reste, ça prend pas un PhD pour savoir que la personne va potentiellement tomber en burn-out. Si vous faites un diagnostic organisationnel de chacun de vos employés, de votre équipe, vous allez rapidement voir qui est plus à risque sans même leur poser des questions sur est-ce que tu es TDAH, est-ce que tu es dyslexique, est-ce que tu es... peu importe.
Mais je pense que aussi, on en parle un peu depuis les derniers mois, là, mais tu sais, la rentrée va être à surveiller quand même parce que justement, tu sais, je pense qu'il va y avoir un pic, en fait, les gens savent pas trop comment la rentrée va se passer. Les parents qui ont des enfants ont vraiment très, très hâte et je vous le confirme qu'ils retournent à l'école parce que pour être que chacun retrouve son petit bout de vie, en fait, là, tu sais, puis qu'on soit, tu sais, qu'on retrouve un semblant de normalité. Mais cela dit, je pense que cet automne, les entrepreneurs, c'est une chose, mais les employeurs aussi, je pense qu'ils vont devoir être très, très alertes, en fait, et très réceptifs et flexibles aussi, d'une certaine façon, à ajuster un peu soit l'horaire ou soit, tu sais, les enfants qui vont retourner à l'école, si on ne va pas se le cacher, vont être malades. Peut-être qu'il y a des parents ou des gens qui vont avoir, pendant 5-6 mois, là, tu sais, garder ça, essayer de garder un certain contrôle, puis là, ben ça va juste lâcher, tu sais. Fait que je pense que va vraiment falloir être un peu plus... alerte à ça en tant qu'employeur, gestionnaire, RH et tout ça, là, cet automne particulièrement.
Je reviens sur le cas d'éventuellement, c'est une amie à moi qui a vécu ça dans son entreprise, c'est une entrepreneur. Une de ses employées était visiblement en détresse mentale avec des pleurs, puis des SMS le week-end qui... des pensées suicidaires, je pense, de mémoire, là, si je vous reconstitue les choses correctement. Et cette personne-là, l'entrepreneur en question, a vraiment aidé son employé à lui dire « Écoute, il faut que... Là, ça marche plus. Là, j'ai peur pour ta santé, à toi, mentale puis physique. Mais l'employé disait « La seule chose qui fait que je tiens, c'est mes collègues et mon travail. Fait que si tu me pousses à partir, ou à me mettre en pause, ben écoute, moi, je peux pas. Non, c'est la seule chose qui me reste. » Mais finalement, la personne était... probablement en danger et pourrait peut-être même aussi mettre en danger ses collègues. Donc, elle est où la responsabilité à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu fais en tant qu'employeur? Tu sais, j'étais incapable de la conseiller en tant qu'entrepreneur là-dessus. Est-ce que c'est sa responsabilité de forcer la personne, entre guillemets, à prendre une pause ou non? Ou est-ce que c'est la mettre en difficulté encore plus? Tu sais?
Une ressource pour les employés et les employeurs qui existe, qui honnêtement est très intéressante, c'est le 811 qu'on oublie fréquemment, qui offre un service avec des infirmières et des travailleurs sociaux spécialisés et qui peuvent donner des réponses dans ce genre de cas-là pour la personne en tant que telle. Dans le cas d'idées suicidaires, si la personne en parle, c'est déjà une bonne nouvelle, puis c'est de s'assurer qu'elle continue à en parler puis qu'elle ne se sente pas gênée d'en parler. Et justement, s'il y a un risque réel et si la personne pense de passer à l'acte, appeler le 911, c'est aussi clair que ça. Puis c'est à l'hôpital, ils vont pouvoir venir en aide à la personne. Cela dit, ça revient à un point que je disais tantôt, écouter la personne et écouter qu'est-ce que la personne nous demande est important. Si la personne amène vraiment un risque aux autres employés, mais c'est sûr qu'il faut avoir une discussion difficile avec cette personne-là, puis c'est sûr qu'il faut s'entourer d'un professionnel de la santé qui va nous donner des cues pour avoir la discussion, mais ça veut peut-être dire de donner des tâches moindres à la personne, ça veut peut-être dire de dire à la personne, ok, parfait, mais si on te finance une thérapie en parallèle, est-ce que tu es prête à la faire? Comme ça, j'ai l'impression que tu as un système de support qui existe autour de toi, puis on essaie ça pendant quelques semaines puis voir si ça va un peu mieux, mais de pas nécessairement laisser la personne seule et se sentir non écoutée. Parce que oui, probablement que la personne a besoin d'un break, mais probablement que ça a besoin d'être fait progressivement avec justement l'accompagnement d'un professionnel qui va aider la personne à prendre ce moment-là puis à s'outiller. Puis dans plusieurs cas, c'est pas nécessairement égal à prendre un break, un burn-out évidemment professionnel. La réalité, c'est que des fois, c'est un manque d'inspiration, c'est un manque d'engagement. Je reviens à l'exemple, je dirais mère, père, monoparental qui n'y arrive pas et financièrement et opérationnellement et en plus qu'il y a un parent qui est malade et comme cette réalité-là fait en sorte qu'à un moment donné, ça devient trop. Mais la personne, elle sent aussi qu'elle a besoin de se sentir active, productive et tout. Puis si on y enlève le travail, elle va peut-être juste cracher encore plus justement parce que c'est le bout qui l'amène ailleurs. C'est que c'est justement de prendre le temps d'écouter la personne, d'écouter sa réalité puis trouver un plan de match qui fait en sorte que la personne peut s'en sortir et elle est mieux. Puis des fois, juste de regarder d'une vue externe, je me rappelle de quelqu'un qui me disait qu'il n'arrivait pas justement en COVID à cause qu'il fallait qu'il fasse l'épicerie pour ses parents et tout, avant le COVID, pardon, ses parents et tout. Puis j'ai dit, l'épicerie en ligne, ça existe. Donc, si tu fais juste aller en ligne, commander à chaque semaine qu'est-ce que tes parents ont besoin, puis leur faire livrer, bon, au moins, quand tu vas les voir, tu peux passer du temps avec eux. Tu passes pas une heure et demie à faire l'épicerie avant de faire la route et y aller. Et des fois, juste de donner certains cues, certains trucs externes peut aider aussi.
Pour les entreprises aussi qui ont accès à de la télémédecine, je sais qu'il y a beaucoup de plateformes de télémédecine qui offrent maintenant un accès pas mal 24/24 à des professionnels ou à des intervenants, pardon, pour discuter. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté chez certains de nos clients. Donc, juste de dire, ben regarde, oublie pas, les employés ne savent pas forcément que la plateforme de télémédecine offre ce genre d'accompagnement. Nous, ça nous a permis de donner des clés parfois anonymes. Je veux dire, c'est quelqu'un de neutre en dehors de l'organisation qui donne accès à cette personne-là, à du soutien et de l'écoute, parce que l'accès aux soins au Québec est quand même particulièrement difficile dans le public. Donc, quelqu'un qui n'a pas forcément les ressources financières, tu sais, des séances de psychothérapie ou avec un psychologue, c'est quand même coûteux. Le fait qu'il ne faut pas négliger le fait que, effectivement, ta solution de dire, ben, regarde, moi, en tant qu'employeur, je m'engage à te financer une thérapie à côté. C'est un excellent point, Martin, je trouve, à proposer aux employés.
Et souvent, les services de télémédecine qui prennent un dialogue, pas pour juste les bloquer, là, mais dans leur cas, ils offrent un service en santé mentale. Puis qu'est-ce qui est extraordinaire de leur service, c'est que les spécialistes en santé mentale et les médecins généralistes se parlent, ce qui est malheureusement pas le cas dans la majorité des thérapies. Donc, un psychologue va parler au médecin généraliste ou au travailleur social pour s'assurer que la personne dans son suivi est réellement accompagnée pour réellement les outils qu'il a besoin. Donc, effectivement, ces services-là sont extraordinaires dans bien des cas. Ils ne remplacent pas 100% de qu'est-ce qui existe en présentiel, mais sont certainement une ressource extraordinaire aux entreprises à un coût sincèrement très abordable.
je fais un lien avec, on a reçu Chloé Frelon aussi qui parlait de équité, diversité, inclusion. C'était un peu son approche aussi de dire, ben, c'est pas rendu au recrutement qu'il faut parler de ça puis mettre ça en place. Il faut vraiment que ça soit en place à la base dans les valeurs de la compagnie, que ça fasse partie vraiment de la culture de l'entreprise. Puis je pense que c'est un bon moment peut-être pour mettre ça en place. Si ça peut faire partie des choses positives qu'on peut retirer de ça, tu sais, de mettre en place puis de mettre en place des ressources pour nos employés puis de les arrêter quand la pandémie va être peut-être terminée un jour, on ne sait pas quand, là, mais tu sais, que ça devienne finalement une pratique d'entreprise parce que là, on vit quelque chose de spécial, mais tu sais, d'établir ça, de se trouver des outils, puis de ne pas gêner pour appeler puis demander où est-ce qu'il faut que j'appelle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, des fois, on ne sait pas trop, on va appeler à la bonne place, mais tu sais, on peut appeler à différentes places, on va finir par trouver, là, si je parle des gestionnaires, puis des ressources humaines, puis des dirigeants d'entreprise, tu sais, parce que je pense que de les offrir ces ressources-là, c'est déjà une première chose à faire pour la base.
Ouais, puis, peut-être un truc, c'est de normaliser qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Parce que la réalité, si on arrête de penser à avant la crise et après la crise, et juste de penser que c'est la vie qu'on vit actuellement et on bâtit là-dessus, la réalité, c'est que la COVID va probablement être là encore pour plusieurs années, dans tous les cas. Même qu'il va y avoir un vaccin, à un moment donné, le H1N1 a continué également après la crise. C'est pas juste une question de se questionner sur le avant et après COVID, c'est de se bâtir une nouvelle réalité avec qu'est-ce que la vie nous offre actuellement, puis de tenter de trouver du sens là-dedans, de tenter de comparer constamment le avant et les après, faire en sorte qu'on a constamment l'impression que le avant est extraordinaire. Personnellement, le fait de pas voir autant de taux dans les rues aller au travail chaque matin puis polluer autant, de pas voir autant de gens qui s'obsèdent à devoir être d'une heure précise au travail et en sortir à une autre heure précise et qui voient pas leur enfant pendant des mois parce qu'ils sont toujours au travail, je trouve que c'est pas si extraordinaire que ça, le avant. Puis que si on sert des apprentissages du avant et du courant pour bâtir un nouveau futur, mais c'est là qu'on le voit plus comme une crise, mais bien comme une opportunité de croissance, même si c'est des moments extrêmement difficiles qu'on vit actuellement.
Ben, j'ai qu'une chose à dire, c'est wow! Martin, ce que tu viens de dire, pour vrai, c'est puissant. Hein? C'est bête, mais je veux dire, c'est tout bête ce que tu dis, mais on dirait que le fait que tu le dises comme ça, c'est effectivement, je pense que c'est un réflexe qu'on a toutes et tous, je me reconnais beaucoup là-dedans, de comparer le avant et le. On dirait que là, j'ai encore le réflexe de dire c'est temporaire, mais non, c'est pas temporaire, c'est long terme. Pour l'instant, là, tout ce qu'on vit, puis il faut arrêter de le comparer. Merci pour ça, Martin. Moi, ça m'a touchée particulièrement.
Je pense que ça va, en fait, moi, en inspirer quelques-uns, puis peut-être en rassurer aussi, parce que je pense qu'une des choses, moi, j'ai déjà été ressource humaine en entreprise, puis c'est pour ça que je me revois dans ce rôle-là, puis j'ai été dans un contexte d'entreprise qui avait été racheté et tout ça, donc ça a été des années très émotive et haute en changement pour les employés. Puis j'avais systématiquement, tous les jours, sans blague, une personne qui venait pleurer dans mon bureau. Tu sais. Puis à un certain moment donné, j'ai dit, ben, je n'ai pas de formation en psychologie, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas les aider, ces gens-là. Puis c'était lourd aussi à recevoir dans le sens où je veux les aider de nature empathique, etc. Moi, ça m'affectait beaucoup. Puis je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le réflexe à l'époque, en fait, de dire, ben, moi, je vais l'appeler le programme d'aide aux employés, puis je vais leur demander ce qu'il faut que je fasse dans ce temps-là ou quoi que ce soit, tu sais, pour avoir les bons réflexes. Puis ne serait-ce qu'être un petit peu outillé, ça peut vraiment faire toute la différence quand même dans notre approche par rapport à ça. Fait
que... Appeler le programme d'aide aux employés au niveau des ressources humaines, c'est quelque chose que je recommande fortement. Je l'ai fait à plusieurs reprises dans l'entreprise, puis je me suis fait dire que prendre 18 scotch par jour, c'était correct. Des fois, c'est juste une mauvaise personne dans le programme d'aide qui peut dire des conneries, mais juste en appelant nous-mêmes quelquefois, on est capable de voir justement qu'est-ce qui est dit versus d'attendre que les problématiques reviennent à travers les employés.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Martin, pour tout ce partage. Ça a été, je pense qu'on a donné des solutions, des pistes de réflexion, en fait, autant aux employés qu'aux employeurs, qu'aux gestionnaires, qu'aux gens qui ont besoin aussi d'écoute. Ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer dans les publications futures les ressources, justement, disponibles. Revivre en fait partie. J'insiste pour les connaître aussi. J'ai eu des très belles discussions avec cette organisation. C'est des gens qui sont très empathiques sur la situation, fait que, entre autres, Revivre, et je mettrai également Martin selon tes recommandations, deux, trois autres ressources pour outiller les gens.
Parfait.
Merci beaucoup, Martin. C'était vraiment très intéressant. Puis je terminerai peut-être juste aussi en rappelant encore une fois aux gens, si vous sentez que vous avez besoin de parler, attendez pas d'être au bout complètement. Prenez le téléphone. N'hésitez pas à prendre la parole, à aller chercher de l'aide. Puis si, en tant que, de l'autre côté, en tant que gestionnaire ressources humaines ou dirigeant d'entreprise, vous sentez que quelqu'un peut avoir des problèmes, parlez-en autour de vous aussi. Il y a peut-être des gens qui vont avoir d'autres idées. Plus on en parle, mieux c'est finalement. Martin, on a parlé de revivre et dialogue. Peut-être que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations.
Bien sûr. Revivre peut facilement être rejoint par Facebook ou revivre.org ou par téléphone. J'ai parlé de Dialogue, qui est une entreprise qui offre des services de télémédecine, autant en santé physique qu'en santé mentale, qui est intéressant. Le 811 est une ressource gratuite et disponible pour tout le monde. Pour moi, en tant qu'employeur, à la base, c'est de regarder d'un point de vue logique ses politiques, ses façons de faire, la façon qu'on traite les gens et comment qu'on se sentirait si on était traité de même nous-mêmes. Donc, si on applique la politique de quelqu'un d'autre envers nous-mêmes, est-ce qu'on trouverait ça fair ou on ne trouverait pas ça fair? Si la réponse est non, mais qu'est-ce qui vous limite? C'est des questions financières. Ayez une discussion honnête et ouverte avec vos employés pour trouver des solutions parce que c'est pas tout qui coûte cher. Et souvent, on est capable de trouver des idées créatives différentes en impliquant tout le monde dans son organisation en brainstorming versus de s'isoler soi-même à stresser, à se dire comment je fais pour faire plus. Impliquer vos gens et ils vont pouvoir vous aider à y arriver également. Puis, dans tous les cas, comme on l'a dit plusieurs fois, isolez-vous jamais. Si des gens sont isolés dans votre entourage, ouvrez-vous à eux et tentez de leur offrir de l'aide sans vous prétendre être thérapeute vous-même, mais soyez vulnérable avec les gens autour de vous. Vous allez voir, ça crée des miracles.
Merci beaucoup.
Merci, Martin.
Merci de m'avoir invité.
Stories est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Play.